Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce footpod consacré au quart de finale du championnat d'Europe de football 2020 de l'UEFA-TM. Je suis Nico et bien sûr Yann est présent pour débriefer ces quatre quarts délicieux.
Mais oui, Nico. Bonjour tout le monde. Bonjour, Nico.
Enfin, il y en avait trois qui étaient délicieux. Quatrième, moi. Mais bon. Tout ça démarre au match 45, le 2 juillet 2021, à 18h. C'est donc le France-Espagne à Saint-Pétersbourg, devant 24 764 spectateurs et arbitré par Michael Oliver. Oui, parce que non, je suis désolé, les Suisses n'ont pas battu les Français. Ce sont les Français qui ont perdu face aux Suisses.
Ah mais ça c'est évident hein. C'est évident hein.
Après, ils n'ont pas démérité, ils ont été courageux, ils ont fait le match qu'il fallait, ils ont été très appliqués pendant 90 minutes, au contraire des Français. Et donc,
Et même
voilà.
plus, et même plus.
Oui, c'est vrai qu'il y a eu des prolongations. C'est vrai qu'on va pas directement au tir au but. Et pourtant,
Et t'as cru que c'était la Copa América ici?
Suisse comme Espagnol, ils auraient bien aimé aller directement au tir au but parce que ce fut compliqué dans cette prolongation puisque oui, le match s'est terminé sur un score nul, un partout. Avec but donc dès la 8e minute contre son camp de Zakaria et égalisation de Shaqiri à la 68e. J'ai envie de dire bravo aux Suisses parce qu'il fallait tenir. Ils ont eu un peu quand même beaucoup de choses contre eux, déjà beaucoup beaucoup de voyages. Niveau récup, ben bon, certes les Espagnols ils en ont pas eu plus, mais
Non,
comme
mais ils
ils
venaient de moins loin quand même, hein. Alors
puis
certes, ça s'est joué à Saint-Pétersbourg, mais
et les
les
Suisses ils ont
Espagnols, faut pas oublier qu'ils ont joué tout à domicile pendant le premier tour.
Alors que
Après, ils ont
les
pu aller
Suisses,
à
ils ont fait trois
Copenhague.
fois le tour de l'Europe pendant le premier tour.
Pendant ce temps, les Suisses, ils ont fait Bakou, Rome, Bakou, quoi. Enfin, Bakou, Rome, Bakou, ils sont allés pas en Croatie, en Roumanie. Et puis après,
Puis
ils
en
viennent à
Russie,
Saint-Pétersbourg, quoi.
voilà. Et puis en plus, ben voilà, l'effet de match, le tir espagnol, je suis pas persuadé qu'il rentre s'il n'y a pas la déviation de Zakaria. Qui prend vraiment son gardien à contre-pied, et pourtant, quel match il a fait son heure, putain. Derrière, ils ont Mbolo qui se blesse, ils ont la carte rouge, ouais, enfin, il y avait quand même un peu tout contre eux, et ils ont tenu au courage, vraiment, on a senti que dans la prolongation,
Bah, il était écrit que la Suisse ne devait pas gagner. Enfin, très clairement. Alors, non, pas écrit par l'UEFA. De temps en temps, ils écrivent les sorts des matchs. Mais il était écrit que la Suisse devait pas gagner. Ils ont tout raté. Ils ont tout. Enfin, ils ont tout essayé, les pauvres. Ils ont joué de malchance.
Voilà, il y a surtout Sommer qui les a maintenus à flot, hein, parce qu'il a sorti quand même un paquet de parades exceptionnelles. Hein. Oui, quand tu vois que prolongation, ils sont plus capables de mettre vraiment un pied devant l'autre, et puis t'arrives à séance de tir au but. Voilà, la façon dont les trois tirs sont ratés, tu vois que les joueurs, ils en peuvent plus, ils sont cuits de chez Carbo ou quoi. Ils ont tout donné, ils ont rien à se reprocher, et ils ont fait un très bel euro. Voilà, c'est. Ils ont quand même sorti les
Ouais,
champions du
l'objectif
monde.
c'est des quarts de finale.
Ils ont quand même sorti les champions du monde. Et ils étaient à deux doigts d'affronter les vrais champions du monde, qui affrontaient les Italiens dans le deuxième quart de finale. Nous allons en parler juste après que je te ridiculise un petit peu, hein, monsieur Yann. Puisque tu avais dit victoire de la Suisse 2 à 1. Moi, j'avais mis
La
la
Belgique, tu
Suisse.
veux dire?
Non, pour le premier quart, là, qu'on a parlé. Espagne-Suisse.
Ah oui.
J'avais donné l'Espagne vainqueur 2-1. Bon, moi j'avais donné la Suisse vainqueur 2-1, mais au moins j'avais prévu les prolongations. Toi non. Alors que dans le Belgique-Italie, tu avais prédit une superbe victoire belge 2-1, tandis que j'avais prédit un 3-1 pour les Italiens. J'avais hésité en plus avec 2-1, j'aurais dû dire 2-1, puisque c'est le score final de ce match. Avec ouverture du score signé Barella, Insigne qui donc permet à l'Italie de mener 2-0 et Lukaku qui redonne espoir juste avant la mi-temps aux Belges sur penalty. Mais ça sera pas suffisant, les Italiens vont tenir toute la deuxième mi-temps et enfin même plus que tenir parce qu'ils ne sont pas contentés de se recroqueviller devant leur but. Ils ont aussi beaucoup goûté à la pelouse de l'Allianz Arena. ils ont pris beaucoup de temps pour jouer les touches, encore plus de temps pour jouer les 6 mètres. Et tout ce que je retiendrai vraiment de ce match, c'est Immobilé avec ses deux jambes cassées, sa carrière de footballeur finie et ses copains qui continuent à jouer, qui n'ont rien à foutre, limite Barella lui marche dessus, tu sais, il va marquer le but. Ah, miracle, je suis guéri, Saint Barella m'a soigné les jambes.
Non, mais c'est ça, alors. Bon, la Belgique ne méritait pas de gagner, ça c'est évident, la Belgique était en dessous. Néanmoins, c'est ce but-là qui débloque la situation côté italien. Ou c'est celui-là, hein.
Oui, c'est le premier, oui.
Ah, c'est le premier, ouais. J'hésitais entre les deux. Et du coup, ça débloque la situation. T'as quand même trois défenseurs belges qui s'arrêtent de jouer parce qu'ils sont persuadés que l'arbitre va siffler. Enfin, je veux dire, avec les moyens techniques qu'on a, c'est jeune pour simulation et coup franc pour l'équipe belge normalement. Hein.
C'est oui. Maintenant, je suis pas persuadé que la VAR pouvait revenir sur. C'est très bizarre en fait comme situation. Parce que j'ai pas le souvenir d'avoir eu ce type de situation. Où t'as une simulation grossière qui gêne le jeu et ça se conclut par un but derrière. Alors ça a dû arriver dans un championnat, sûrement dans une. Mais là, comme ça, sur un match que j'ai vu, une compétition aussi importante, j'ai pas le souvenir d'une action de ce type-là, honnêtement. Maintenant, voilà, bon, il fait son numéro Immobilé, mais je veux dire, l'Italie a quand même été un cran au-dessus des Belges.
Et Insigne marque un but. Sans pas un bon euro, pour moi, Mancini doit le foutre sur le banc dès la demi-finale. Quoi.
Ouais, surtout que Chiesa n'a pas démérité devant, donc voilà.
Excuse-moi, je t'ai coupé dans ton argumentation d'identité.
Non, j'étais en train de dire, Insigne a marqué un but exceptionnel. Hein. Il faut quand même le. Le deuxième but italien, la frappe comme ça de 27 mètres.
Ah, il est beau. Ouais.
Bah, pour moi, il fait probablement partie du top 5 des buts de l'Euro. Hein.
Avec celui de Chic contre l'Écosse.
Tu veux déjà faire une transition?
Non.
Tu vas continuer à enfoncer les Belges?
Tu veux dire les vrais champions du monde 2018 et les vrais champions d'Europe 2018?
Voilà. C'est bien parce que tu leur as quasiment trouvé l'excuse hein, pour leur élimination contre les Italiens.
Si on avait mieux joué, on serait vraiment champion du monde.
Voilà. C'est un peu comme Raymond Domenech qui est champion du monde 2006. Hein. Je revois toujours cette image pendant que les Italiens y fêtent le titre après le coup de sifflet où il est là au bord de la pelouse à regarder les étoiles avec un petit sourire comme ça, tu sais, les yeux pétillants, un petit sourire. Il est en train de s'imaginer lever la coupe et faire la fête parce qu'il est champion du monde. Ah, là. Peut-être une chose que fera le sélectionneur tchèque d'ici un an et demi, mais en tout cas il le fera pas à 7 euros puisque la Tchéquie a été sortie par le Danemark 2-1 avec but de Delaney et Dolberg et réduction de score de Schick et nous avions prévu tous les deux 3-1 pour le Danemark.
Ouais.
Même score chez nous deux. Et non, il y a eu un résultat à bas coût. Nous avions été trop généreux.
Oui, mais ça, c'est parce qu'on n'est pas passé à la banque déposer les chèques.
Mmh. Ouais. Mmh. Mmh. J'ai presque envie de dire, les Danois, ils vont le payer cher, ce match. Hein. Ils ont pris les chèques. Bref.
Je dirais pas que ça vient des chèques, mais ça n'a pas marché.
Bah après les Danois, ils ont parfaitement maîtrisé la première mi-temps. Mener 2-0, c'est logique. Et pour moi, ils se sont vus un peu trop beaux. Et la Tchéquie, elle avait pas abdiqué. Hein. Pour moi, ils étaient revenus en mode, on va gérer la deuxième mi-temps. Le problème, les Tchèques, ils l'ont pas entendu de cette façon. Et en plus, le Chic, marque très rapidement. Donc ça relance totalement la deuxième mi-temps et tu te retrouves avec des Danois qui doivent défendre chèrement leur qualif sur la deuxième mi-temps. C'était un match vraiment pas désagréable du tout. Vraiment dommage que ni TF1 ni M6 n'aient voulu le diffuser parce que d'ailleurs il faudra quand même se poser la question au bout d'un moment pourquoi en France on n'est pas fichu de diffuser des compétitions en entier alors que des autres pays d'Europe elles sont visibles quasi intégralement dans beaucoup de pays. Je veux dire, les Belges ou les Suisses, ils n'ont pas les budgets de la France et pourtant ils diffusent tous les matchs. Hein.
Ouais, peut-être que pour le marché français, l'appel d'offres est plus haut. Quoi.
Du coup, nous, on est obligés de regarder la pauvre Cordis terrorisée par Yoann Riou qui saute dans tous les sens pour commenter le match, façon radio. Ouais, toi, tu regardes pas les matchs grande soirée sur l'équipe, toi.
Non, mais tu sais, Marble Mania sur TF1, ça m'a suffi.
En plus, ils ont mis un plexiglas entre les deux, tu sais. Que ça soit Raphaël Sebaoun ou Candice Roland, ils sont tous les deux là, je trouve, un jour de se faire écraser par le plexiglas parce que Yoann Riou, il va s'empaler dessus. Bref, donc, qui affrontera les Danois en demi-finale? C'était, je crois que personne n'y croyait, hein, à la qualif de l'Ukraine. D'ailleurs,
les Ukrainiens eux-mêmes n'y croyaient pas.
Tu avais prédit une victoire anglaise 2-0. J'avais prédit une victoire anglaise 2-0. Et ben, ils ont gagné 4-0, hein, parce que les Ukrainiens ont décidé qu'ils n'allaient pas du tout jouer ce match et c'était dégueulasse. Vraiment. Voilà. Les Anglais marquent le premier but de Kane à la quatrième.
Oui, c'est ce qu'a tué les Ukrainiens, en fait.
Ouais, mais enfin, ils auraient pu quand même essayer de sauver l'honneur. Alors, je veux bien que la première mi-temps, en plus, les Anglais, ils sont en mode joue à la baballe, parce que les Ukrainiens, ils font aucun effort. Et c'est vrai que ce qui les tue vraiment beaucoup, les Ukrainiens, c'est au retour de la mi-temps, Maguire et Kane, 46e, 50e, je m'étonne. Ça se trouve, Shevchenko, il était là en mode, donc le sélectionneur, ouais, vous tenez, puis vous mettez un contre à la 85e, tu sais, pour les tuer, obtenir les prolongations, ou une connerie comme ça. Et puis, pam, 5 minutes après, t'es mené 3-0. Mais c'était horrible à voir les Ukrainiens qui se foutaient dans leurs 30 mètres, qui n'essayaient même pas de sortir. C'était vraiment façon, tu sais, club genre Nîmes, Dijon, Metz, qui joue contre un PSG de feu, tu sais, à 3-0, tu plies la boutique pour préserver le goal à verrage, en fait. Et te dire, ouais, on va pas s'en prendre 7 ou 8. Sauf que là, t'es dans un match à élimination directe.
Dans un match à 0 ou 9-0.
Voilà. Bah, après, ça fait toujours mal au cul de rentrer à la maison, éliminé sur un 7-1 ou 8-0, quoi, tu vois. Mais ça change rien, que ça soit 1-0, ou un énorme score. Donc, c'est pour ça, ouais, je sais pas. Et il y a un petit peu d'honneur, mais là, rien. Il y a même à un moment, comme ça, un vieux dégagement, comme ça, tout moisi des Ukrainiens. T'as Pickford qui sort et qui fait n'importe quoi avec le ballon. Elle revient sur un Ukrainien, donc qui se retrouve avec le but vide. Hein. Enfin, vide, il y a quand même deux défenseurs entre... Là, tu dois faire une meule, mais c'est limite s'ils repassent pas la balle aux Ukrainiens, aux Anglais. Ouais, j'ai fait, non, c'est bon, j'arrête le match, quoi. J'en pouvais plus de voir ce refus de jeu des Ukrainiens. Ils avaient peur de se faire engueuler parce que on allait embêter l'Angleterre et un petit peu fatiguer l'Angleterre avant sa demi-finale. À domicile. Et ouais, je vais pas dire que l'UEFA veut que l'Angleterre gagne, mais elle a quand même été vraiment mise dans les meilleures conditions et les meilleures dispositions possibles pour aller au bout, hein. Ne serait-ce que le fait qu'ils ont jamais voyagé à part là pour ce quart de finale où, ouh là là, ils ont été à Rome. Ouh, quel déplacement. Bon, certes, ils auraient pu aller à Dublin ou Copenhague, c'est encore plus près, mais...
Oui, bon, écoute, mais Dublin, ouais, Rome, c'est plus joli, il y a un meilleur climat.
Ben justement, le changement de climat, ça peut leur faire un coup de chaud froid, tu vois, et qu'ils se retrouvent un peu malades. Ils auraient pu aller à Amsterdam, ils auraient pu aller à Amsterdam ou Copenhague, c'est encore moins loin, quoi. Je veux dire, on arrive à ils ont une poule qui est quand même horriblement accessible, hein. Je sais plus qui ils avaient dans leur poule.
Mais les Tchèques, l'Écosse et les Croates.
Ils n'avaient pas les Turcs?
Non, c'est les Italiens, ça.
Ah oui, c'est les Italiens qui avaient les Turcs. Ouais, bon, c'était pas non plus... Bon, je veux dire, c'est pas la poule la plus facile, entre guillemets, mais c'était pas la plus compliquée non plus, hein. Certes, ils sont coltinés le 8e, ils étaient quasi sûrs de se taper un des rescapés du groupe de la mort, donc France, Allemagne ou Portugal.
Donc bon, c'était easy parce que les trois étaient crevés.
Les trois arrivaient crevés et en plus, ils ont eu l'Allemagne qui est sur courant extrêmement alternatif depuis 2 ans, hein, 3 ans. Ils peuvent te sortir des gros matchs comme au Portugal, comme des matchs qu'ils ont galéré pendant plus de 80 minutes pour arracher le nul contre la Hongrie. Hein, donc, Voilà, c'est... Puis oui, voilà, derrière des Ukrainiens qui refusent de jouer. Et donc, ben, les Danois en demi-finale, j'ai beau adorer les Danois, il vaut mieux quand même se taper le Danemark que l'Italie ou l'Espagne. C'est en
On
clair.
Est d'accord, néanmoins, moi je vois bien, enfin, je vois bien. J'aimerais bien, mais je pense que ça n'arrivera pas. J'aimerais bien que le Danemark refasse le coup de la Grèce en 2004, qui elle-même avait refait le coup du Danemark en 92.
Mais pourquoi pas? Je veux dire, là, tu sens vraiment que c'est une équipe qui est portée par, par Eriksen. Donc, le joueur qui a fait le malaise cardiaque au premier match, tu sens qu'il joue pour lui, quoi, puis maintenant, ils ont plus rien à perdre, ils sont en demi-finale, pour eux, leur euro est réussi. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à perdre? Et les seules limites qu'ils pourraient avoir, c'est la limite physique. Et c'est vraiment un problème de cet euro, hein. Toutes les équipes arrivent carbonisées ou presque, hein. À part les Italiens qui sont quand même restés relativement réguliers dans un niveau assez important. Enfin, je veux dire, les Anglais, ils ont quand même eu des matchs, deuxième et troisième match de poule, ils ont vraiment fait le service minimum, hein. Et t'as pas le sentiment qu'ils seraient vraiment capables de sortir un match à haute intensité aujourd'hui.
Ouais. Les après, Espagnols. Peut-être que l'Ukraine, ça va les débloquer.
Les Espagnols, ou alors, ils vont se prendre la, 4-0, c'est bon, on a super Kane, tu vois, enfin, ils pourraient prendre la grosse tête. Je pense que les Espagnols auraient pu s'éviter la séance de tir au but s'ils avaient été capables de varier le rythme en prolongation, d'étirer beaucoup plus le bloc suisse, mais ils jouaient vraiment complètement tout le temps sur le même rythme. Tu sentais qu'il n'y avait pas ce joueur capable de mettre le coup de rein pour accélérer, perforer la défense. Ils étaient vraiment toujours sur le même rythme. Alors que
bah, c'était le tiki-taka, mais sans le côté offensif.
Et c'est ça, chez beaucoup d'équipes. Clairement, une des causes de l'échec français, c'est l'état physique. Alors, c'est loin d'être la seule raison, mais ça en fait partie. Je pense que les Allemands aussi, hein, ils ont souffert du côté physique. En plus, voilà, on s'est tapé Bucarest et Budapest quand il faisait 30 degrés, quoi. Enfin, je veux dire, c'était juste, tout le monde le disait, c'était insupportable. Même les journalistes sur place, nous, on était là en tribune sans bouger, on était à l'agonie, quoi. Ils osaient même pas qu'est-ce que ça donnait les joueurs sur le terrain, quoi, en fait. Quand t'arrives pas dans une top condition physique et que tu dois jouer par 35 degrés et récupérer par 35 degrés, ouais. Ben,
ouais,
tu
mais
galères,
tu comprends,
quoi.
Il faut jouer les matchs parce qu'il y a eu une idée il y a 10 ans à la con de faire un euro dans 12 villes. Mais comme cette idée à la con d'ailleurs, bon, alors Platini pouvait pas prévoir la pandémie. Mais cette idée à la con de faire bouger des supporters, de faire augmenter aux États les jauges dans les stades, sous prétexte que, bah, du coup, vous aurez pas la finale parce qu'en Hongrie, comme c'est une dictature et qu'ils ont décrété qu'il y avait pas de problème, pardon, la Hongrie n'est pas une dictature, c'est un régime autoritaire, autant pour moi. Mais comme c'est un régime autoritaire et qu'ils ont décrété qu'il y avait pas de problème, du coup, il y a un stade plein, c'est mieux pour la télé, hein. Et puis, le Danemark, on va le faire jouer le soir même parce que ça nous arrange pour les droits télé, parce que le lendemain midi, c'est pas top. Et puis, bah, vous jouez, sinon vous perdez, enfin, merde.
Oui, enfin, niveau protocole sanitaire, je te rappelle le deuxième match de préparation des Bleus. Ah oui, 5000 personnes dans le Stade de France. Mais tu les fous tous dans la même tribune face aux caméras. Du coup, ça servait à quoi
J'ai pas dit qu'on était bon là-dedans, hein, mais.
On avait déjà fait ça au mois d'octobre, d'ailleurs, avant,
c'est ça.
Avant la seconde vague, entre guillemets. Donc, je veux dire, niveau critique, si c'était pour faire ce qu'on a fait, bah, autant remplir le Stade de France, hein, honnêtement. Moi, Orban,
mais
il n'a pas...
Quand tu vois le directeur de l'OMS Europe qui dit « Mais arrêtez, 7 euros, c'est une connerie », et l'UEFA « Ah ben non, on pense pas que ce soit nous qui soyons à l'origine. Ouais, » putain, mais...
Non. Je peux te dire que moi, j'habite quand même dans une région où il y a quand même une autoroute de transit nord-sud de l'Europe. Je peux te dire que depuis la semaine dernière, tu as des Belges, des Hollandais et des Allemands partout sur l'autoroute. Parce que les Belges, ils ont beau détester la France, dès qu'il faut venir en vacances en été, ils sont en France, hein. Bon, certains vont en Espagne ou au Portugal ou en Italie, hein, mais il y a quand même une bonne partie qui vont en France. Je veux dire, t'as pas besoin d'organiser un euro pour pousser les gens à partir dans un autre pays européen
non,
en pleine pandémie.
Je suis d'accord, mais je suis d'accord là-dessus, mais si tu veux.
T'es d'accord avec moi, Serge. Allez, Christine, fais péter les cahuètes.
Christine, fais péter Des cacahuètes. Mais si tu veux, il y a quand même un moment où je pense que l'UEFA, ça part de responsabilité, mais tout ce qu'ils vont gagner, c'est d'avoir des stades pleins devant les caméras, certes, pour l'Euro, mais pour leur Ligue des Champions dans les 2 ans à venir, bah, les seuls, si on repart sur le rythme de l'an dernier et de cette année, et bah, les seuls matchs qu'auront des supporters dans les tribunes, ce sera les troisième tours préliminaires de la Ligue Conférence, quoi.
Parce que ça sera en plein milieu de l'été, quand le,
c'est ça.
Quand il y a un reflux du virus, quoi, mais, oui, non, mais après, Michel Platini est super content, hein, parce que il l'a encore répété dans une interview fin juin, hein, c'est super de pouvoir donner l'euro à des petits pays. Ben, je sais pas, organise-le à ce moment sur 3 ou 4 pays voisins. Tu vois, genre, tu fais la Hongrie, la Roumanie, qu'est-ce qu'il y a, l'Autriche à côté aussi. Ben, tu vois, tu prends 3 ou 4 pays, tu leur donnes comme, de toute façon, t'avais fait Pologne-Ukraine, quoi, en 2012. Ouais, 2012. Comme là, ils étaient censés faire la Coupe du Monde.
Suisse-Autriche en 2008.
Ouais, où t'avais la bah la prochaine Coupe du Monde, enfin une des prochaines Coupes du Monde qui était censée se faire sur 3 pays là en Amérique du Sud.
Du Nord.
Non, du Sud où ils avaient prévu Argentine, Pérou et Paraguay.
Non, c'est Copa América ça. Argentine,
oui, mais enfin bref. Oui, non, mais c'était
la Coupe du Monde, 32. On la file aux US avec Canada, Mexique pour dire on la file pas aux US pour qu'ils foutent la paix dans le dossier du Qatar.
Ouais, mais c'est pas la Coupe du Monde 2032 qui était prévue. Il me semble, hein.
Non, parce qu'il n'y a pas de Coupe du Monde en 2032, vu qu'il y en a une en 2026.
Oui, bah alors c'est 2030. Oh, mais t'inquiète pas, d'ici là, on aura bien une Coupe du Monde en 2032, hein. On va bien en faire une tous les 2 ans, il faut pas déconner, hein. Ah non, l'Espagne et le Portugal sont officiellement candidats pour 2032. Oui,
parce qu'elle doit être en Europe. Ah non, maintenant ils ont arrêté le principe de on tourne sur les continents, je crois.
Si, mais avant on tournait une fois l'Europe, une fois ailleurs, une fois l'Europe, une fois ailleurs. Maintenant, on change de continent, mais pas forcément une fois sur deux l'Europe. Il me semble que c'est ça. Enfin,
effectivement, tu as raison. Il y a une candidature commune entre l'Argentine, le Chili, le Paraguay et l'Uruguay. Voilà. Et l'Uruguay aimerait bien accueillir la finale de 2030 pour célébrer le centenaire.
Oui, mais. Hein, les Jeux Olympiques de 96.
Oui.
Tiens, on va les faire à Paris pour célébrer le centenaire, ou alors à Atlanta, qui est la ville du principal sponsor. Bonne question.
C'est con que que l'Amérique l'ait juste avant, parce que Budweiser, ils auraient aimé.
Oui, mais pas Cristiano Ronaldo. Et je te rappelle que Cristiano Ronaldo jouera toujours en 2030. Il y aura encore des records à battre.
C'est juste. Comme Messi, d'ailleurs.
C'est pas si loin, quoi. Ça, bah déjà, ça lui permettra de jouer le record du plus vieux joueur ayant évolué en Coupe. Ouh, attends, Roger Milla, il avait quel âge? Ouh, il devait déjà avoir du 42-43 ans, Roger Milla, quand il a joué... Oui, là, footballeur camerounais, 94, je crois. Il a joué super vieux, il me semble, hein, en Coupe du Monde. Je pense qu'il n'avait pas déjà fait son jubilé avant même d'arrêter sa carrière. Tellement elle a été longue, sa carrière. 38 ans en 90 en Italie.
Donc 42 en 94.
Tu crois que 38 plus 4, ça fait 42. Il devient à 42 ans et un mois le joueur le plus âgé de l'histoire de la Coupe du Monde. Il sera battu par le Colombien Farid Mondragon en 2014. Mais attends, Mondragon, il joue encore au foot en 2014?
C'est un peu ce que je me demandais.
Putain, mais il était à Metz en 2000-2001, quoi. Le 24 juin 2014, il entre en jeu à la 84e minute du 3e match de poule Japon-Colombie et devient à 43 ans et 3 jours le joueur le plus âgé à participer à une rencontre de Coupe du Monde.
2030, il en fait entrer en jeu pour ça.
2030, c'est dans 9 ans, il aura 44 ans, Ronaldo, c'est bon. Ah bah merde. Le 26 juin 2018, le record est battu par l'Égyptien Essam El Hadary, qui joue le 3e match de groupe entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte à l'âge de 45 ans. Non, il n'y aura pas 45 ans Cristiano à ce moment-là, je crois. Bon bah Cristiano, il est obligé d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2034, voilà.
C'est ça.
Rigole pas, le mec, il fait tellement attention et il s'entraîne tellement que, Je pense que même à 48 ans, il sera en meilleur état que certains joueurs de Ligue 1 à 32, quoi. Donc,
c'est ça.
Bref, on s'éloigne un peu du sujet. Parlons Revenons des plus, parlons des records des joueurs les plus vieux à l'Euro.
Revenons au chrono.
Oui, donc, alors, pour Espagne-Italie.
2-0 Italie.
Moi, je mise sur un petit 2-2 spectaculaire et on va au tir au but. Ouais, je suis fou, là. Je
oui, c'est fou. Pas spectaculaire, c'est pas crédible.
Ah, attends, c'est quand même l'euro le plus prolifique en but. Depuis, enfin,
et en but contre son camp aussi. Merci à la défense.
Alors, et Angleterre-Danemark. Angleterre-Danemark. Oh, j'ai envie de miser sur le Danemark rien que pour faire chier les Anglais et l'UEFA.
Ben, alors moi j'aimerais bien.
Parce que là les Anglais pour eux ils sont déjà en finale. Hein. Donc.
Ouais, je suis d'accord. Moi j'aimerais bien que le Danemark l'emporte. Mais si la raison se rappelle à moi, je dirais 2-0 pour les Anglais.
Moi, je tente le 3-2 pour le Danemark. Voilà. Comme ça, ouais. Moi, je suis.
3-2, 3-2 pour le Danemark, ça me paraît pas possible. 2-1, ouais. Tu sais, genre un truc, les Anglais ouvrent, les Danois égalisent en première mi-temps. C'est serré, et paf, but à la 88e.
Ouais, non, moi, je vois le truc du genre, l'Angleterre qui mène 2-0 à la mi-temps, qui se voit déjà en finale. Enfin, ils y sont déjà, mais là encore plus. Et, les Danois qui réduisent à 75e, les Anglais qui se mettent à faire du Thiago Silva et qui perdent avec un but arraché à la 92e. Maintenant,
et comme ça sur la BBC, tu auras Paul Le Guen qui fera no.
Gary Lineker, c'est le Paul Le Guen local. Non mais tu vois, mais ben heureusement, je vois pas les Danois avoir le physique pour le faire, mais au mental, pourquoi pas. Et un petit ouais. Italie-Danemark en finale. Ça serait bon, ça. ça... Allez. Bon, ben, on va aller voir ça tout de suite, hein, parce que ben, c'est dans pas longtemps, hein, mine de rien, la première demi-finale. Et ben, nous, on se retrouve très vite pour l'analyse et le débrief de nos pronos tout des demi-finales. Allez, merci Yann d'être venu... critiquer encore une fois l'UEFA, ça doit être, je crois, la troisième fois hein, sur cette roue que tu critiques ces pratiques.
En 5 potes, ouais, mais attends, il en reste encore 2.
Oui, tu auras l'excuse en post-finale pour le faire de Delphine, elle sera peut-être avec nous normalement, hein, elle sera avec nous. Tu auras l'excuse du ouais, mais Delphine n'avait pas encore entendu. Alors que si, tu as dû le faire dans le premier déjà.
C'est possible. Non, j'ai dû commencer au malaise d'Eriksen, qui m'a vraiment fait prendre conscience dès la deuxième journée qu'il y a quelque chose qui n'allait pas.
Ouais, bref, donc à très vite les gens, à très vite Yann, et merci d'être venu en parler, et bye bye.
T'en prie, salut Nico, salut tout le monde.
Voilà, piou piou les gens. Ouais, piou piou, ça fait bien, piou piou, piou piou, piou piou, piou piou. Tu trouves pas que ça a une belle sonorité, piou piou?
Pourquoi pas cuit cuit?
Ouais, parce que les joueurs sont déjà cuits.